Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu et maintenant c'est Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir, on est toujours sur Radio Cagneux et donc c'est le début d'Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, vous avez très bien manipulé tout ça, le générique et tout ça.
Ouais, c'était petit à petit.
C'est magnifique.
Et donc les annonces, ça va être assez court, on n'a pas grand chose cette semaine. Donc du coup, on va débuter avec une manifestation appelée samedi à 15h30 par la Maison de la Mésopotamie. Donc je vais vous lire le tract d'appel. Appel de soutien au peuple kurde et aux forces démocratiques en Turquie. Depuis la tentative de coup d'État de la nuit du 15 au 16 juillet, la situation ne cesse d'empirer en Turquie. Arrestations de députés, maires, journalistes, artistes ou militants ou militantes, actes de torture, disparition et assassinat, incendies criminels, couvre-feu et fermeture des médias d'opposition. Rien ne semble arrêter le projet d'Erdogan de liquider méthodiquement l'opposition démocratique kurde en particulier. Prétextant la défense contre les putschistes de juillet et s'appuyant sur l'état d'urgence, 50 000 personnes, dont les coprésidents du HDP, le Parti démocratique des peuples, Selahattin Demirtaş et Figen Yüksekertag, désolé pour la prononciation, plus d'une quarantaine de maires kurdes, dont ceux des plus importantes villes kurdes de Turquie, ainsi qu'une dizaine de responsables du HDP ont été arrêtés. 110 000 personnes ont été suspendues ou renvoyées et 19 universités et près de 1000 écoles ont été fermées. Les libertés de la presse et d'association sont elles aussi gravement attaquées puisque 200 journalistes ont été arrêtés et 170 médias censurés, dont le journal Cumhuriyet, principal journal d'opposition, ou l'IMC TV, fermé en direct par la police. Une vingtaine de syndicats et plus de 300 associations ont été dissoutes. La Turquie avait annoncé qu'elle ne pourrait respecter la Convention européenne des droits de l'homme et il faut reconnaître qu'elle tient ses promesses. Malgré les déclarations de Nils Melzer, reporter spécial de l'ONU, sur les actes de torture perpétrés en Turquie, les tentatives des députés du HDP de réunir des commissions d'enquête sur ces exactions ou sur les différents attentats qui ont entraîné des centaines de morts kurdes cette année ont été rejetées par l'AKP, le parti au pouvoir, et son allié d'extrême droite, le MHP, Parti d'Action Nationaliste. La complaisance, pour ne pas dire la collaboration entre l'État turc et l'organisation djihadiste Daesh n'est plus à démontrer. La Turquie a laissé passer, via sa frontière avec la Syrie, des centaines de djihadistes européens et les militants de Daesh peuvent se replier en Turquie pour y être soignés sans être inquiétés le moins du monde par les forces de sécurité turques. De plus, le pétrole produit sur les territoires contrôlés par Daesh passe sans encombre la frontière turque, où il est acheté, comme le montrent encore les derniers mails de Berat Albayrak, ministre de l'énergie du gouvernement turc, révélé par Wikileaks. Alors que Dimitris Christopoulos, président de la Fédération internationale des droits de l'homme, estime que l'Union européenne aurait les moyens de pression pour infléchir la politique d'Ankara, l'UE continue ses demi-mesures. L'accord UE-Turquie de février, en violation complète des principes du droit d'asile et du non-refoulement, de la Convention de Genève, met en jeu quelques 6 milliards d'euros pour retenir les réfugiés aux portes de l'Union européenne. Il est devenu un outil pour Erdogan, qui a menacé explicitement le 25 novembre d'ouvrir les frontières de l'Europe aux réfugiés si celle-ci ne contestait un peu trop fort sa politique. N'acceptons pas le chantage de Recep Tayyip Erdogan. Nous réaffirmons notre soutien à la lutte démocratique du peuple kurde et à tous les réfugiés ainsi qu'aux minorités nationales de Turquie, victimes elles aussi de la répression. Nous exigeons l'arrêt immédiat de l'intervention militaire turque au Kurdistan, le retrait de ses troupes et la mise en place d'une politique pacifique permettant l'autodétermination du peuple kurde, la condamnation par le gouvernement français de l'État turc et de son président Erdogan en raison de son soutien à Daesh et de sa politique de guerre anti-kurde, le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et de la France, la reprise du dialogue en Turquie. Ce dialogue passe par la fin de l'isolement arbitraire que subit Abdullah Öcalan, emprisonné et coupé de tout contact extérieur depuis des mois. Appel à manifester donc le 17 décembre 2016, 15h30, à la place des terreaux.
Oui, bien vu. Donc du coup, on espère du coup qu'il y aura du monde, parce que ça fait plusieurs rassemblements qu'il y a devant le consulat de Turquie. Il y a eu un premier rassemblement à l'appel de syndicalistes, il y en a eu un deuxième pas très longtemps après, il y en a eu un il y a quelques jours dimanche, là aussi devant le consulat. Donc on espère que toutes ces forces en fait vont se réunir et on va pouvoir faire une belle et grosse manif du coup, par rapport à ce qui se passe en Turquie notamment. Voilà. Ouais. Donc voilà, on espère qu'il y aura du monde, donc 15h30 terreau.
Surtout que l'actualité de ces derniers jours pour montrer qu'il y a vraiment une grosse importance à se mobiliser massivement.
Pour ce qui se passe là-bas, ouais, donc on espère qu'il y aura vraiment du monde samedi après-midi.
Pour finir les annonces, je veux juste rappeler que du coup, lundi soir, il y a encore les cours de langue à la Plume Noire de 18h à 20h. Donc la Plume Noire, 8 rue Diderot, dans le premier arrondissement de Lyon.
Donc voilà, n'hésitez pas, ça c'est issu de la commission antiraciste du coup de la CG à Lyon, du coup depuis un an maintenant, parce que c'était en janvier 2016 que ça a démarré, donc presque un an, qui du coup de toutes les semaines le lundi du coup propose du coup des cours de français aux migrants et aux migrantes, du coup avec des avec donc des personnes qui viennent aider et des personnes qui viennent du coup recevoir les cours. Donc ouais, n'hésitez pas à passer, envoyer un mail du coup sur groupe-lyon@c-g-a.org. Voilà, si vous voulez donner un coup de main ou si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ces cours. Il désespéré en face de moi, il vient de se casser sa clé. Tant pis pour lui. Ça lui apprendra.
Oui, donc du coup, c'est fini pour les annonces et je te laisse.
J'enchaîne.
Continuer sur ta lancée.
C'est parti, ouais. Tu sur ta clé, c'est parti. Donc, on va faire une petite phase un peu antifasciste, du coup, pour parler un peu de ce qui s'est passé du côté du Havre. Du coup, pour reparler aussi un petit peu de ce qui s'était passé à la Plume Noire. Hein, il y a toujours l'appel, du coup, à solidarité financière qui tourne, que ce soit au niveau du pot commun, au niveau des chèques que vous pouvez envoyer à l'ordre de la Plume Noire. À la Plume Noire, au 8 rue Diderot, ou des virements que vous pouvez aussi faire en soutien du coup au local. Voilà, pour l'instant, le local, il est loin d'être de nouveau,
en état
voilà, de fonctionnement normal. Ça va peut-être durer un petit moment du coup, puis il y aura des aménagements à faire que l'assurance ne prendra sûrement pas en charge. Donc voilà, on compte sur vous pour nous permettre du coup de pouvoir pérenniser et sécuriser ce local. Voilà, pour vous parler aussi de ce qui s'est passé au Havre, donc avec une nouvelle agression fasciste et un communiqué de Ralph Ronde là-bas. Du Havre du coup, hein. Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 décembre, un militant de l'association Ralph Ronde s'est fait agresser dans le centre-ville du Havre. Alors qu'il rentrait tranquillement chez lui, le camarade croise 8 individus sur le trottoir d'en face qu'il identifie comme antifascistes. Les 8 nervis traversent la route et lui sautent dessus en s'acharnant un coup de poing américain. Le camarade au sol a subi des multiples coups de pied, tous concentrés sur la tête. Le camarade souffre de multiples hématomes et d'un léger traumatisme. Pour Alfron, le caractère politique de cette agression ne fait aucun doute. Les agresseurs n'ont en effet pas cherché à obtenir des objets de valeur. Ce ne fut qu'insultes et menaces pendant le passage à tabac. Le camarade, pour des raisons personnelles et politiques, désire garder l'anonymat et ne déposera pas plainte. Ces méthodes sont typiquement celles de l'extrême droite radicale qui a fait des agressions de rue une spécialité dans plusieurs villes de France. Depuis plusieurs mois, une tension est présente dans la ville du Havre. Ralph Ronde Le Havre, qui est signataire du collectif de soutien aux migrants, a eu plusieurs altercations verbales avec l'extrême droite havraise lors de distribution de tracts sur le marché des Halles. Ralph Front apporte donc son soutien aux camarades victimes de cette lâche agression, qui intervient dans un contexte déjà tendu et la condamne très fermement. En effet, ces derniers mois, l'extrême droite a multiplié les agressions contre les jeunesses communistes dans plusieurs villes de France, Marseille, Paris, Rouen, mais aussi contre des locaux de syndicats, d'associations et de partis politiques, comme par exemple la Plume Noire, Librairie Libertaire de Lyon. Face aux agressions fascistes, la solidarité est notre arme. Nous réaffirmons ici notre détermination à mener notre combat politique antifasciste et pour la solidarité entre les peuples. Nous ne nous laisserons pas intimider par ces actes. Donc voilà, ça c'est un petit communiqué signé le Raffron. Donc bien évidemment, on leur transmet toute notre amitié, solidarité antifasciste.
Solidarité.
Voilà, ouais, par rapport à ce qui s'est passé là-bas. On sait que du coup, que c'est pas isolé, hein, qu'ils sont un peu là-dedans en ce moment. Tous ces petits, nos amis les bêtes là, tous ces petits fachos qui prennent un peu de, bah, qui sentent un peu libérés, hein, par tous les discours un peu réac de, qui est un peu partout. Heureusement, dans certaines villes, du coup, ça se passe plutôt dans l'autre sens. On va parler vite fait de Nantes, du coup.
Ouais, bah oui, parce que bon, quand ça arrive, on va prendre un petit peu de... On va le rappeler quand même, du coup, il y a des petits rats du GUD qui ont voulu aller tracter leur bile raciste à la fac de Nantes cette semaine, hier, si je ne me trompe pas. Donc, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, ils ont commencé à distribuer leur truc. Et au bout d'un moment, forcément, les gens se sont un peu rendus compte de ce qui se passait. Et ils leur ont gentiment demandé de partir à l'aide de multiples ustensiles. Ce qui fait que ces gens ont dû leur demander... Leur demander de les laisser partir parce que c'était terrible et que du coup ils ont bien détalé. Donc voilà, avec des belles affiches qui ont été déployées sur la fac, Refugees Welcome et Good Go Home. Donc on ne saurait que les soutenir.
Ouais là-dessus, voilà, ouais. Donc nous étions un petit peu énervés par rapport à ce qui s'est passé hier, du coup, au rassemblement de coups de soutien aux migrantes et aux migrantes là, qui s'est passé place des Terreaux, parce que bah, comme ils sont un peu comme à Lyon quand même, c'est un peu le laboratoire là, avec de multiples locaux et voilà, pas mal de groupes qui existent d'extrême droite. Du coup, voilà, ils se sentent un peu poussés des ailes et ils sentent un peu tout permis. Donc, ils ont débarqué hier un petit peu pendant le rassemblement là, du collectif de soutien aux migrantes et migrants. Donc, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, parce que du coup, ils étaient une petite dizaine. Mais voilà, ils sont quand même montrés, alors que d'habitude, voilà, c'est pas trop de leur fête non plus. L'année dernière, pour un rassemblement similaire, c'était l'Action française qui s'était montrée, puis ils s'en souviennent encore, je pense. Cette année, voilà, ils ont fait un peu les guignols. Les flics les ont arrêtés avant qu'ils viennent devant la ligne du service d'ordre. Voilà, qui protégeait le rassemblement. Voilà, après, ça s'est un peu invectivé. Mais voilà, du coup, c'était un peu dommage, que je pense, comme à Nantes, quand la possibilité du rap, en tout cas, quand il y a le rapport de force et qu'ils viennent provoquer un rassemblement dans une fac, enfin, du coup, où ils n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir leur rappeler qu'ils n'ont rien à y faire et de pouvoir les faire partir en courant. Voilà, on espère que du coup, voilà, ça cogitera un peu chez tout le monde, là, parce que du coup, on va avoir une période très délicate les 4-5 mois qui viennent avec l'élection présidentielle, avec le discours qui va être plutôt décalé à droite, 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 de plus en plus avec les mois qui vont passer, et avec eux qui vont se sentir légitimes de pouvoir sortir dans la rue, de pouvoir taper un peu sur tout le monde et de provoquer tous les rassemblements qui seront organisés. Donc on espère qu'il y aura des réponses adaptées à tout ça, tout en sachant que ce serait bien aussi que tout le monde investisse un peu les terrains de les luttes sociales, et notamment celle des migrantes et des migrantes, voilà, qu'il y ait du monde, beaucoup plus de monde sur ces rassemblements-là, et qui permettrait du coup qu'ils n'osent même pas venir, en fait. Donc voilà, et puis comme du coup le travail antifasciste, antiraciste ne se fait pas dans la rue, enfin pas que dans la rue en tout cas, mais beaucoup aussi dans les luttes, et notamment au niveau syndical. Je vais vous lire le petit appel antifasciste de Visa. Alors Visa, c'est le vigilance intersyndicale, je crois, antifasciste. Voilà, il y a plusieurs syndicats dedans. Voilà, donc je vous lis un peu l'appel, parce qu'il est assez intéressant, parce que voilà, pour ceux qui bossent ou même qui ne bossent pas, parce que ça, là c'est au niveau du travail, mais je veux dire, je pense aussi au niveau des voisins, au niveau des amis, au niveau de la famille, il y a des choses à faire aussi. Donc voilà, je vous lis l'appel un petit peu de ce réseau-là, qui est assez intéressant, et j'espère qu'il sera diffusé assez largement dans pas mal de boîtes. Donc cet appel s'adresse aux syndicalistes qui pensent qu'il est encore temps, dans leur entreprise, dans leur localité, dans leur secteur professionnel, avec d'autres syndiqués venus d'autres horizons, mais tout aussi attachés qu'eux aux valeurs qui fondent le syndicalisme, de prendre en charge le combat contre l'extrême droite. Donc ça commence comme ça. Vous craignez trois petits points. Que des collègues de bureau, d'atelier, certains camarades, certaines militants, militantes, voire responsables syndicaux ne soient sensibles aux réponses simplistes et démagogiques du FN et s'en fassent les propagandistes. Vous craignez que le discours raciste et discriminatoire de l'extrême droite ne trouve un écho favorable non seulement au sein d'autres partis politiques de droite ou non, mais également auprès de certains membres des instances représentatives du personnel de votre entreprise. Vous estimez trois petits points que les syndicalistes ont une responsabilité particulière pour dénoncer les pseudo-solutions du FN qui consistent à dresser les uns et les unes contre les autres, les précaires, les immigrés, les chômeurs et ceux et celles qui ont un emploi. Que le devoir d'un syndicaliste est de défendre de façon intransigeante la solidarité de tout le salariat, quelle que soit son origine et son statut. Que votre section syndicale, votre union professionnelle ou votre structure interpro n'a pas encore pris suffisamment en charge la dénonciation de la propagande frontiste, alors que cette idéologie est aux antipodes des idéaux de solidarité et de progrès défendus par votre organisation syndicale. Vous estimez que votre syndicat n'a pas encore développé des outils adaptés, journées de formation, brochures, affiches, etc., pour vous aider à démystifier aux yeux des salariés de votre boîte, de votre localité, de votre bassin d'emploi, les propositions prétendues sociales de l'extrême droite. Vous pensez, trois petits points, qu'il est grand temps d'organiser la lutte face à la lepenisation des esprits. Vous pensez que le combat nécessaire à mener contre l'extrême droite doit être pratiqué, si possible, de façon unitaire par-delà les divergences syndicales. Vous pensez que des camarades d'autres secteurs professionnels ou géographiques et ou venant d'autres horizons syndicaux partagent votre réflexion et votre désir de lutter collectivement et unitairement contre l'implantation de l'extrême droite dans le monde du travail. Si vous partagez tout ou partie de ces réflexions, alors c'est à vous que s'adresse cet appel. Il est encore temps de prendre en charge collectivement et unitairement le combat contre l'extrême droite. Visa vous propose une formation gratuite sur place, donc ça se passe sur Paris, d'un ou deux jours et pour 20 personnes au minimum sur le ou les thèmes que vous souhaitez voir abordés. Un retour d'expérience sur notre pratique depuis 1996 de lutte contre le FN, ainsi que sur la création récente de visas locaux. Et un dépôt de brochures, d'affiches, de DVD et autres outils nécessaires à l'instauration et à la viabilité d'une structure permanente en vue de créer un comité visa dont il vous appartiendra de définir géographiquement et professionnellement le secteur d'intervention. Donc voilà pour ce petit appel syndicaliste. Franchement, allez faire un petit tour sur le site de Visa. Puis du coup, là, ils respectent la charte d'Amiens. Du coup, c'est très neutre politiquement. Voilà, il n'y a pas d'appel du coup à... Ce que je trouve bien dans cet appel, du coup, c'est pour ça que je le dis aussi, il n'y a pas d'appel du coup à... C'est un appel à combattre l'extrême droite, mais c'est pas un appel à voter autre chose. En fait, il parle pas du vote, il parle pas des élections présidentielles, il parle juste du combat syndical contre l'extrême droite. Je trouve ça plutôt bien. Du coup, et sur leur site, il y a voilà pas mal de brochures, effectivement, de posters, et il est grand temps d'organiser effectivement des discussions dans vos boîtes pour parler de cette thématique-là, parce que voilà, autrement c'est des bruits de couloir, et puis voilà, il y a sûrement de toute façon au moins un ou deux salariés là où vous bossez qui partagent ces idées-là, et du coup, il est grand temps du coup de faire face à tout ça. Il y a aussi d'autres brochures qui existent, on en avait lu pas mal dans l'émission, notamment sur les préjugés sur les migrants et les migrantes. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place, et une petite discussion des fois vaut beaucoup mieux qu'un tract, qu'une brochure ou qu'une affiche. Voilà, ça permet de mettre les choses un peu à plat. Voilà, il y a des petites vidéos qui tournent en ce moment aussi sur les réseaux sociaux sur les fameuses fraudes, hein, des méchants fraudeurs aux allocs et tous les compagnies, voilà, avec les vrais chiffres du coup qui parlent un petit peu des fraudes des entreprises et le coût que ça a. Voilà, c'est toujours intéressant aussi de remettre la balance là-dessus, donc voilà. Et puis voilà, bon, on vous laisse du coup partager tout ça. Monsieur de la technique, bonjour.
Ouais,
j'ai fini une petite page, ouais, et du coup on voulait vous passer du coup un petite musique du coup un peu sur la thématique.
On va passer la canaille et c'est parti.
That is nothing more tragic than to sleep.
C'est un cri qui sort de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion. C'est un tambour, un tam-tam, un boucan de tous les diables. C'est un ram-dam, c'est un râle d'homme, un râle-bol. Une bouteille de tissu et de l'alcool. C'est un fondal, un calvaire. La gueule du sauvageon qui veut pas se taire. C'est une espèce de nasse, une promesse, mieux, une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays. La boule au ventre de colère et le changement d'attitude qui s'opère. C'est un chant qui porte la résistance en lui. C'est la canaille et bien j'en suis. C'est un lion, c'est une panthère. Tête baissée, le poing en l'air. C'est un combat, un constat, une réflexion. Un siècle et demi après la redéfinition. C'est du piratage, sabotage. La graine de mutin, c'est de l'abordage. C'est la science du renversement. L'ennemi de l'ordre des gouvernements. C'est ici, c'est maintenant. C'est ce son dans les tympans. La conséquence, le réceptacle. L'alternative à la débâcle. C'est l'évolution, c'est l'après. C'est l'héritage, c'est la clé. Ouais, c'est ce phare qui brille dans la nuit. C'est la canaille, et bien j'en suis.
C'est la larve d'un volcan qui se réveille.
C'est la vague qui te balaye, c'est le vent. Un vent d'humanité. On veut la justice, pas la charité. Au nom du merveilleux, de ses yeux écarquillés. Au nom de la beauté de nos rêves éparpillés. C'est de l'amour, ouais de l'amour à revendre. À réduire un système en cendres. C'est une armée, c'est une légion. Internationale et la pression. C'est plus haut que les frontières et les barbelés. C'est des mots pour marteler. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est vieux comme le feu. C'est la lutte comme un rempart à l'ennui. C'est la canaille, et bien j'en suis, dis-le. 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 C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. Et bien j'en suis.
Bonsoir, c'est toujours Radio Canu et c'est toujours Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et du coup, on va enchaîner avec un petit reportage audio. Du coup, on était au rassemblement là ce dimanche devant le consulat de Turquie en soutien du coup aux femmes et aux minorités de Turquie, vu aussi ce qu'elles subissent en premier plan du coup là-bas depuis quelques temps avec Erdogan. Du coup, petit reportage où on va entendre alors, le début, le son doit être un peu pourrave, on s'excuse, un peu bas, mais après il augmente un petit peu. Hein. Le matos qu'on a est pas top, donc du coup voilà, mais du coup il y a l'intervention du coup de l'appel au rassemblement fait par organisé par le planning, notamment le planning familial du Rhône, et ensuite on a du coup quelques slogans et puis une intervention, une lecture de texte du coup voilà qui pendant ce rassemblement là. Donc je vous laisse lancer, ça démarre tout de suite parce qu'il manque le tout début de l'intervention, donc il y a quelques mots qui vont être ratés, mais c'est pas très grave, on prend la suite après, il y a pas de souci.
Bon, vous allez comprendre. J'y vais et j'espère pas faire de bêtises. C'est parti.
Des femmes politiques du HVT qui sont arrêtées et démises de leurs fonctions. Des avocates, des journalistes, des universitaires, enseignantes, journalistes, artistes et intellectuels qui sont arrêtées et démises de leurs fonctions. On dénonce aussi les conditions de détention qui sont inhumaines, où la torture s'intensifie et où les femmes sont systématiquement menacées de viol. Depuis 2014, on assiste à des attaques régulières de la part du président Erdogan contre les femmes et les minorités dans une conception essentialiste des femmes. L'avortement est selon le président Erdogan un crime contre l'humanité. Il faudrait que les femmes aient au moins 3 enfants si elles veulent être complètement comblées. Elles ne sont naturellement pas les égales des hommes. On assiste à une augmentation des violences faites aux femmes. 3 femmes sont tuées tous les jours, soit 5406 femmes tuées entre 2002 et 2015. Le 18 novembre 2016, un nouveau pas est franchi lors d'un projet de loi visant à dépénaliser les viols sur mineurs. Il s'agit de relâcher les coupables d'abus sexuels si l'agresseur épouse sa victime. Alors qu'on compte 11 000 enfants qui ont subi des violences sexuelles en 2014 en Turquie. 400 associations qui luttent pour les droits des femmes, les enfants, la justice et la paix ont été fermées en Turquie. On assiste à une atmosphère réactionnaire pour les militants et les militantes LGBTI avec l'assassinat en juin 2015 de la militante trans Ande Kader, merci, et l'annulation de la Pride cette année. Nous, militantes féministes, LGBTI, organisations politiques et syndicats, dénonçons le silence complice de l'Union européenne et de la France face à la politique réactionnaire et répressive menée en Turquie. Nous dénonçons également la coopération des services de police au travers d'opérations visant des militants et des militantes sur le sol européen. Nous exigeons la libération immédiate de tous les emprisonnés dans les geôles turques, l'arrêt de la torture et des conditions indignes de détention. Nous demandons la réouverture des 400 associations qui luttent pour le droit des femmes, les enfants, la justice et la paix. Et nous rappelons avec force notre solidarité internationale avec les femmes en lutte. Bravo.
qui est sans frontières. Notre lutte est sans frontières. Notre lutte est sans frontières. Notre lutte est sans frontières.
Cadavre de l'autre. Le Kurde que vous appelez terroriste, l'Arménien que vous insultez, le Grec dont vous avez confisqué la maison, le Tzigane que vous virez, l'Arabe que vous méprisez, la Lévi dont vous marquez la porte d'une croix, le Chrétien dont vous caillassez les vitres, le Chaldéen que vous menacez, l'autre que vous discriminez. Je suis le cadavre de l'autre, je suis la femme que vous agressez, l'enfant dont vous libérez le violeur, le LGBTI dont que vous poignardez, le clochard que vous bousculez, le vieux que vous abandonnez dans sa solitude, l'orphelin que vous cadenassez dans une pièce. Je suis le cadavre de l'autre, l'enfant devenu orphelin à Herménec, le mineur reçu à coups de pied à Soma, la mère qui lève ses mains au ciel à Réanu. Je suis le père qui met son enfant dans le tombeau, l'enfant dont la seule photo avec son père est prise dans le cimetière, la mère du samedi qui cherche toujours les os de son enfant. Je suis le cadavre de l'autre. Je suis les larmes de la mère de Tracy, dont le corps fut traîné derrière un blindé. Je suis le regard gelé de Tchemele, dont le corps a été mis dans un congélateur. Le destin du père d'Aziz, qui se bat depuis 2 mois pour récupérer la dépouille de son enfant. Je suis le cadavre de l'autre, le mouchoir blanc dans la main de maman Meryem. L'entêtement d'Ethem, le sourire d'Ahmet, la chaussure trouée de Hunt. Le vélo que Veysel n'a jamais pu monter. Je suis la douleur du bébé de 35 jours. Je suis le cadavre de l'autre. Ali, que vous avez tué en tabassant, dans le tabassant. Berkin, que vous avez tué en visant la tête. Kevser, que vous avez mise nue. Le paysan, que vous avez massacré à Roboski. À Suruch, le jeune qui apportait des jouets à Kovane. Je suis le cadavre de l'autre. De ceux et celles que vous ne finirez pas de tuer. De ceux et celles que vous bousculez, dont vous niez l'existence, que vous n'arrivez pas à anéantir, dont vous ne vous rassasiez pas de la mort, vous ne vous lassez pas, vous n'avez pas de honte, de ceux et celles que vous n'arrivez pas à intimider, à écraser, à faire disparaître, de ceux et celles que vous réussissez pas à faire taire, que vous ne pourrez jamais museler. Article de Leila Al. Bravo.
Du Kurdistan ne sont pas seules. Les femmes de Turquie, du Kurdistan ne sont pas seules. Les femmes de Turquie, du Kurdistan ne sont pas seules.
Fasciste, Erdogan, criminel, impérialiste, sexiste, fasciste,
Erdogan, criminel, impérialiste, sexiste, fasciste.
Arrestation, torture et viol, halte au silence en Turquie.
Donc voilà pour très bien. Pour le petit reportage audio sur le rassemblement de dimanche, donc on vous rappelle de nouveau le rendez-vous de ce samedi 15h30 place des Terreaux. Voilà pour une manifestation pour tout ce qui se passe en Turquie depuis plusieurs mois et quelques années même maintenant. Donc voilà, on espère qu'il y aura du monde voilà suite à tous les rassemblements qu'il y a eu devant le consulat, qu'enfin sur une manif, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc voilà. Et puis du coup, on va enchaîner avec un premier jet de lutte sociale.
Avec plaisir, c'est difficile d'intervenir après un enregistrement comme celui-là.
Hein, mais il faudra.
Mais il va falloir. Et je vais m'y mettre, je vais m'y atteler. Allez, on va aller du côté de La Rochelle, donc dans l'ouest. C'est le lycée Valin qui a subi une grève donc, des professeurs de physique. Physique et chimie. Ils ont, et elles, ont jeté les travaux pratiques aux sorties. Les manipulations en labo ont été interrompues. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, c'est un manque de personnel compétent, apparemment. Une prof absente pour un long moment a été remplacée par une technicienne, ou un technicien d'ailleurs, à mi-temps, qui a été muté dans un autre établissement. Donc, intenable selon les grévistes, quand on travaille avec avec des produits sensibles, assurer la mise en place des cours, la préparation des expériences et du matériel. Les cours théoriques, quand même, ont été assurés, et le 30-11, ben, ça ne s'arrangeait pas. L'établissement Valin est déjà sous-doté en matériel et en personne. Note ces professeurs en grève. Il y a 1600 élèves, le rectorat est averti et une action plus vivace n'est pas à exclure. À Petite-Sainte, maintenant dans le Pas-de-Calais, c'est du côté de Dunkerque, c'est même à côté de Dunkerque carrément. Une usine de l'industrie pharmaceutique qui est en grève le 30 novembre. Alors là aussi, qu'en est-il ? Eh bien, ce sont les salariés de la société Minachem qui sont mécontents et mécontentes. Alors, qu'est-ce qui rend colérique un salarié ? En général, eh bien, c'est plusieurs choses, évidemment. C'est son salaire, déjà, qui n'est pas satisfaisant. Et il le sera toujours, je tiens à le dire. Ces conditions de travail qu'on lui impose, eh bien ici sont les deux qui étaient en discussion. L'ENAO déjà, et ces fameuses négociations annuelles obligatoires. Les grévistes exigent 100 euros mensuels. Eh bien la direction leur offre, leur file, je dirais, que 15 euros. Les conditions de travail, eh bien on est ici dans un milieu de chimie également. De nombreux accidents à déplorer chez les 190 employés. Par notamment des gaz toxiques. La direction a conscience du danger. Oh, les braves gens. Et la CGT ben, drive le mouvement social chez Manekem. À Saint-Denis, maintenant dans le 93, donc côté de Paris, avec une grève des personnels des crèches, on dit en bon républicain laïque, les maisons du petit enfant. Il a appris ça. Voilà, bah, si on veut, n'y a pas de souci, au contraire même. Donc, c'est une grève qui est reconductible avec le syndicat EFO. Sont organisés des rassemblements à midi pile chaque jour devant la mairie. Les représentants, représentantes des salariés ont été reçus, mais rien n'en est sorti, enfin pas grand-chose, du moins de la part du premier magistrat de la ville, c'est-à-dire le maire. Les dégradations des conditions de travail, toujours là, ben voilà, c'est les remplacements qui ne se font pas. Les agents exigent des moyens très adaptés aux enfants en bas âge et les parents de ces enfants ben, se sont joints et écrits au maire. À Limoges, 100% de grévistes également, c'est les 62 salariés de chez Starplast, c'est du thermomoulage, c'était le 1er décembre, et c'est le jour choisi pour cette grève, pour un comité extraordinaire, un comité d'entreprise extraordinaire. En discussion, ben là, c'est la tête, carrément, la tête de 22 ouvriers qui sont sur le bio, en fait, puisque ce sont des licenciements qui les guettent, et totalement inutile, puisque le carnet de commandes paraît bien garni chez Starplast, qui fournit à la fois, alors écoutez bien, Dassault, Airbus, Eurocopter, Thales et Bolloré.
Que du beau monde.
Que du beau monde. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis après, d'ailleurs. tu m'as lu derrière sur mon épaule. Bah, que des gens bien. Et 30 millions en chiffre d'affaires. Le patron prétend, pour justifier les suppressions d'emplois, que les prévisions à 40 millions de chiffre d'affaires à l'orée de 2020 bah, ne seraient pas atteints, déjà. Il sait. Ça nous rappelle donc le travail, enfin bon, la nouvelle loi travail évidemment de Monsieur Valls, enfin la mouture version Valls, et nous sommes en présence ben, d'un devin exceptionnel quand même. Tout le fait. Patron pour avoir prévu qu'il n'arriverait pas à atteindre ces sommes-là, donc il a déjà tout prévu ou tout compris de la nouvelle loi travail. Ajoutons pour faire grincer les dents que 400 000 euros ont été engrangés donc, par cette entreprise en aide publique en 2012, 80 000 euros au titre du CICE et 100 000 euros de la région qui s'est empressée, enfin la région s'est empressée de geler la manne sans l'annuler toutefois après évidemment la levée de bouclier. Mais quand je dirais la levée de bouclier, je dirais où est le lève là-dedans ? N'est-ce pas ? Donc nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons mener le combat, voilà, c'est ce qu'on entendait ces jours-ci. Alors selon les grévistes qui sont bien remontés, ben ouais, mais en face c'est quand même Dassault, Eurocopter, donc je répète, hein, Thalès et Bolo, qui n'en a rien à foutre de ces thermoformeurs d'ouvriers, comme on se rappelle aussi les lunetiers du Jura, qui sont à l'heure actuelle, je pense, en train de s'inscrire à Pôle emploi, à Périgueux. Périgueux. Voilà, un millier de soutiens le 26 novembre aux cheminots et mécanos et autres agents de la SNCF devant les ateliers. La SNCF supprimera avant et pendant 2017 90 postes de travail. Alors, outre les salariés de la CGT qui étaient rassemblés, cités que je viens de citer, de la SNCF, eh bien, il y a eu également des usagers qui se sont joints au rassemblement en soutien. À Rion, maintenant, c'est Imperial Tobacco, dont j'ai déjà parlé, qui ferme le site. Donc, 230... Enfin, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé. Enfin, bon, bref. Il me semble, hein, hein. Il me semble, ouais, ouais. Donc, ferme le site, 239 salariés à Fleury et les Aubrais, bah, c'est 87 salariés qui partiront à Pôle emploi. Ben, la raison, elle est toute trouvée, c'est une baisse de la consommation de tabac et aussi la concurrence. Hein, oh là là. Donc, salauds d'ouvriers qui ne roulent même plus leurs cigarettes. Par contre, les actionnaires, eux, se les roulent, les moustaches, avec une hausse de 11% du dividende. Et en Guyane aussi, à Remiré-Montjoly, c'est en Guyane, donc c'est un IME qui est en grève, un institut médico-éducatif, un pôle polyhandicap, c'est l'institut Yepikaz. Et l'UTG, donc l'Union des travailleurs de Guyane, qui a déclenché la grève le 5 décembre avec un rassemblement des employés, qui a éclairci donc la situation de conflit, est exigé le départ de la direction, pas moins que ça. L'établissement peut accueillir de 40 à 70 enfants, enfin des adolescents. Seulement, la gestion, l'organisation n'est pas à la hauteur. 20 personnes de l'effectif ont démissionné. À cette date, pas de solution en vue. Et puis toujours en Guyane, avec le même motif de grève, c'est à la RCT, la Régie communautaire de transport. Le départ du directeur est demandé, qui est incapable, selon l'UTG, de diriger, d'autant qu'il s'appuie sur l'ancienne organisation qui était plutôt déficiente. Alors, négociation au point mort. Les bus étaient arrêtés depuis le 21 novembre. La direction se sent forte car deux groupes se sont constitués, à la fois donc les grévistes d'un côté et les non-grévistes de l'autre qui veulent bosser, et ben ça c'est pas bien. La direction, s'appuyant sur cette rupture dans la solidarité des travailleurs et travailleuses, a porté plainte pour entrave au droit de travailler. Alors, point important dans cette lutte, c'est la sécurité des usagers en fait, puisque le transport en commun assuré par RCT est gratuit d'abord en Guyane.
Ça, c'est bien.
Donc, les...
ça pourrait être le
Merci
cas ici.
Merci d'apprécier.
Tout à fait. Non, mais...
Donc, les voitures sont bondées et il y a là un refus donc, des conducteurs de travailler dans ces conditions, évidemment, d'insécurité. Voilà pour ce qui est de cette première page de lutte.
Parce que nous, c'est bondé, mais c'est payant.
Et c'est cher.
Et c'est très, très cher. Petite pause musicale, je crois.
Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, on va écouter Femouzest avec la chanson...
Les Femouz.
Oh, il y a rébellion.
Moi, je
dis
Femouzest, mais...
C'est les Femouz.
D'accord.
Il y a deux M.
Autant pour moi, alors. Et la chanson, en tout cas, c'est La femme du soldat inconnu, et là, je crois que je ne me trompe pas.
Tout
c'est
à fait.
C'est parti.
Bien vu.
Dans le vent, comment par un sourire entre les dents. Les femmes ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Les honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant on meurt aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots des confitures.
fête et ma guerre. Mais entre quatre murs, c'était une autre guerre avec notre armure. Je l'ai fait traverser des landaux à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Une guerre à donner, la vie que de la prendre. Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant. Et c'était pas la fête, tout le temps. Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Déshonneur à la noire, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu.
On est de retour sur les ondes du 102.2 Radio Canu. C'est toujours Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et je vous laisse la parole.
Bien sûr, je vois pas pourquoi ça aurait changé.
C'est vrai, encore des missions comme ça.
Ah, on sait jamais.
On sait jamais ce qui peut se passer. Non, c'était pour vous reparler un peu vite fait de violences policières. On le fait assez fréquemment dans cette émission-là. Parce que du coup, elle est quasiment quotidienne. Enfin, elle est quotidienne, mais du coup, il y a quand même des affaires qui ressortent. Alors, j'ai pas pu suivre ce qui s'était passé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on vous en avait parlé la semaine dernière. Eh ben, sont jugés les deux frères d'Adama Traoré. Donc, je vais rappeler un peu les faits. Hein. Baggy, 25 ans, et Youssou, 22 ans, comparaissent ce mercredi à Pontoise, donc c'était aujourd'hui, pour forcément violence et menaces à l'encontre de gendarmes et de policiers municipaux. Seuls ces derniers se plaignent de violences hein, qu'ils auraient subies le 17 novembre devant la mairie de Beaumont-sur-Oise après un conseil municipal. Donc, or, la première plaignante qui avait obtenu un certificat médical de son médecin attestant quand même une ITT de 8 jours, a vu son incapacité temporaire de travail retomber à un jour, après avoir été examiné par des spécialistes assermentés des urgences médico-judiciaires. Cette fonctionnaire se plaignait d'avoir pourtant reçu un coup de poing de Baggy Traoré. Selon le compte-rendu médical, ce serait en partie à cause de l'usage de sa propre bombe lacrymogène que cette policière aurait subi une blessure superficielle. Vive la police! Quant au second policier municipal qui a également déposé une plainte pour violence volontaire envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et ben lui il est maître chien. Il est intervenu avec son chien hein, le soir. Il s'appelle pas Diesel, c'est ça? Non, c'est pas son nom. Il est intervenu avec son chien le soir du 17 novembre. Et lors de son audition devant les services d'enquête, il avait indiqué que des jeunes s'étaient avancés vers lui, que l'un d'entre eux avait hésité à lui donner un coup, puis qu'il avait renoncé. Ouais, ben. Par la suite, ben, il s'est fait mordre à la jambe par son propre chien.
Ouais, mais les bêtes sont plus intelligentes.
C'est ça. Les urgences médico-judiciaires, une taupe dans les chiens flics, tu sais, qui s'est infiltrée depuis un moment. Donc aux urgences médico-judiciaires, il a seulement fait état de la morsure de l'animal et des troubles liés au gaz lacrymogène de sa collègue plaignante. Donc il a quand même réussi à obtenir un jour d'ITT avec ça. Donc voilà, on rappelle hein, du coup, on avait fait tout l'éventail, un petit peu la chronologie de la mort, l'assassinat d'Adama Traoré, 24 ans. Voilà, qui est avec tous les heurts et tous les conflits qu'il y a depuis sur la famille. Donc voilà. Et puis on vous conseille aussi un article, du coup, une interview d'Assa Traoré, qui est hyper, hyper impliqué là-dedans, à lire dans Ballast, très, 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 très bonne revue. Le titre de l'article, c'est Allions nos forces. Voilà, pour avoir parcouru un peu l'interview, bah, c'est vraiment pour faire écho à ce que des gens ont un peu découvert, du coup, pendant le mouvement de la loi travail, à savoir la violence policière. on avait quand même pas mal de monde encore qui disait mais non, les policiers, ils sont gentils, ils sont tout beaux. Il y en a des biens, hein, il y en a des biens. Puis après, pour avoir lutté et tout, notamment avec nous, et puis à côté, bah, ils sont vite aperçus en fait non, que c'était des chiens. Défendaient le capital, quoi, donc voilà, ils avaient... ouais, c'est pas gentil pour Diesel et tout, ouais. Et du coup, voilà, donc... et du coup, ils sont pleins, du coup, de violences policières en disant que c'était inadmissible, voilà, machin, blablabla, on sait comment ça s'est passé pendant 4 mois, hein. Et du coup, là, le discours d'Assa Traoré, c'est vraiment, du coup, de faire le lien avec les violences subies dans les quartiers populaires, et que les gens qui ont subi ces violences policières durant les mouvements sociaux, bah, du coup, se mettent aussi... à défendre ce qui se passe au niveau des quartiers populaires, hein, de tout ce qu'il peut y avoir comme violence policière, comme meurtre chaque année, et de s'impliquer aussi dans ces luttes-là et de faire le lien en fait, parce qu'en s'alliant forcément, on aura plus de poids. Et pour parler toujours de violence policière, vous êtes sans doute, je ne vais pas m'emballer, entendu parler de ce qui s'était passé à Vénissieux, hein, avec du coup un accident de scooter provoqué par les flics.
Ou sans doute pas, cela dit, parce que ce n'est pas pour ce qu'on en parle, hein.
Oui, oui, enfin, oui, pas forcément, oui, forcément, oui, enfin, j'ai dit pas forcément. J'ai pas dit du coup, j'ai dit forcément. Un mort et deux blessés graves, du coup, dans cet accident de scooter à Vénissieux. Donc, ça s'est passé dimanche matin vers 5h30. Donc, un véhicule de police a voulu interpeller trois jeunes Vaudais qui circulaient sur un scoot. Sirène, gyrophare, le scooter dérape, l'un des trois jeunes décède. Voilà, pour la presse comme pour les flics, hein, pas besoin d'enquête, forcément, dans ces cas-là. Comme d'habitude, les responsables de cette nouvelle tragédie sont d'abord les victimes. Voilà, donc ce drame a été repris par toute la fachosphère. Faut dire que l'AFP, BFM TV, Le Progrès ou Lyon Mag leur ont bien préparé le terrain. Donc voilà, ils racontaient un peu ce qui passait. Hein, du coup, voilà. Donc trois jeunes voilà, qui ont été visés par un véhicule de police, probablement de très dangereux trafiquants ou la préparation d'un numéro de voltige terroriste. Hein, voilà, ça c'est un peu de l'humour dans l'article. Hein. Étonnamment, les personnes ne se sont pas gentiment arrêtées en entendant la sirène. Voilà, d'après les flics qui ont causé l'accident, il n'y aurait pas eu de course-poursuite. Ils auraient juste, entre guillemets, mis la sirène et le gyrophare. Et boum, accident. C'est quand même dingue hein, ce qui peut se passer des fois. Pour la presse qui reprend docilement et sans conditionnel, parce qu'ils le font pour d'autres affaires, mais là sans conditionnel, donc ils reprennent les éléments d'enquête toujours entre guillemets, c'est-à-dire la version de la police. Et ben, l'accident s'explique facilement. Le conducteur du scooter avait forcément quelque chose à se reprocher puisqu'il voulait échapper à la police. On rappelle quand même juste l'affaire Ziad Bouna, hein, des personnes qui n'avaient rien à se reprocher mais qui ont fui parce que la police est tous les jours comme ça là-bas, dans les quartiers, et que du coup, à un moment donné, ben, on aura le cul de se faire contrôler à chaque fois qu'ils sortent dans la rue. Donc voilà, en fait, en gros, pour la presse, ben, il est au minimum un peu responsable de sa mort, comme Pierre D, voilà, jugé co-responsable il y a quelques jours hein, du tir de flashball qu'il a éborgné à 16 ans lors d'une manif lycéenne. Voilà, donc ce qu'a rappelé après dans l'article, hein, ces journalistes-là ne sont jamais fait emmerder par les flics à 5h du mat en rentrant de fête, ni en rentrant en général d'où que ce soit, à n'importe quelle heure. Ils n'ont jamais eu envie d'accélérer le pas pour s'épargner une énième embrouille, une nouvelle prise de tête dont tu ne connais jamais l'issue à l'avance. Voilà, chacune dépend du niveau d'énervement des flics qui te contrôlent ou d'alcoolémie. Comme le rappelle le site IATA, donc c'est le site de Toulouse, hein, parce qu'il y a eu une enquête sur la police municipale. Et donc le site toulousain cite une sociologue qui refuse d'assister à la fin de soirée bien éméchée d'un équipage qu'elle observe. Celui-ci lui propose d'aller s'amuser d'une manière bien particulière. Ouvrez les guillemets. Après avoir heurté plusieurs trottoirs, évité in extremis deux ou trois obstacles, il s'arrête au milieu de la route et contrôle sans raison, illégalement donc, hein, deux jeunes gens qui marchent tranquillement. Il les fouille et comble de l'ironie, les soumettent à l'alcotest avant de les laisser partir. À mon grand soulagement, ils ne saisissent aucune autre fausse opportunité d'intervention. Puis vers 2h du matin, les compères se lâchent autour d'un dernier verre. On va te faire un beau flag pour que tu vois ce que c'est. On va casser du bougnoul. J'en passe, j'annonce qu'il est temps pour moi de rentrer. Donc voilà, donc c'est sûrement ce qui s'est passé lors de ce contrôle de flic. Donc voilà, donc on a une grosse pensée pour la famille et puis on espère que ça va se mobiliser sur Vénissieux et ailleurs, voilà, pour toujours dénoncer ces violences policières et ces meurtres, parce que voilà, c'est pas parce que même si t'es un scout et que tu roules à trois dessus, c'est pas une raison pour mourir, on rappellera jamais assez, voilà, tout en sachant que la version de la police est forcément en décalé par rapport à la réalité même de la personne qui conduisait le scooter, qui n'était pas du tout alcoolisé. Donc voilà, mais malheureusement, quand il y a on l'a déjà répété, hein, mais quand il y a la première version de la presse, pour quoi que ce soit, hein, c'est-à-dire que c'est cette version-là que les gens retiennent, et après il y a beau avoir une enquête, il y a beau avoir des mobilisations, du coup c'est toujours ce premier article en fait qui reste dans la mémoire des gens. On se rappelait de, on peut citer un Clément Méric, hein, du coup en disant que la version des flics à un moment donné, c'était de dire c'est encore une bagarre, voilà, comme il en se passe souvent. En gros, il l'a bien cherché et puis il est mort, tant pis pour lui. Rémi Fraisse, Ziad Bouna, Adama Traoré, c'est la même chose. Donc la première version, on vous le rappelle, c'était Il avait une maladie, voilà, une infection grave qui l'a fait crever. En fait, non, il a juste été étouffé par les flics. Ils l'ont laissé crever dans la bagnole et par terre ensuite. Donc voilà, donc c'est toujours un peu la même chose. Donc on espère qu'il se passera des choses là-bas. 20h49, je vais peut-être vous laisser du coup... je voulais juste vous parler d'un article et puis après j'arrêterai là, puis je te laisserai du coup pour ta deuxième page de lutte sociale. Voilà, vous pouvez lire un petit article, je vais pas vous le faire en entier, mais du coup sur... voilà, on fait pas grand chose, enfin si on parle de temps en temps des prisons, hein, du coup de ce qui se passe là-dedans, mais là du coup quand c'est les assos qui le font, c'est toujours bien de le dire, parce que du coup au moins voilà, c'est militant, mais pas que, et notamment un reportage, enfin du coup une association qui a été du côté de la prison de Fresnes, et du coup qui alerte de nouveau, encore et toujours, sur le traitement inhumain et dégradant des détenus. Je vous lis quelques trucs quand même, hein. Promiscuité, violence, prolifération de rats, absence de soins. Ça, c'était la contrôleur donc, des prisons. Voilà, donc c'est sans précédent quand même comme déclaration, en fait. Voilà, on rappelle qu'à Fresnes, il y a un taux d'occupation de 202% quand même. Donc voilà pourquoi enfermer tant de personnes, et puis d'ailleurs pourquoi on enfermait tout court. Donc voilà, je vous laisse lire l'article, il est trouvable. Hein, vous l'avez, prison de Fresnes, hein, traitement inhumain, vous trouverez tout ça. Voilà, du coup, je vous laisse avec la deuxième page de lutte sociale.
Ah bah allons-y, alors d'accord, merci, me laisser l'info.
Mais je vous en prie.
On va aller du côté de, dans le nord carrément, c'est à Boitrelos, et là c'est un EHPAD qui est en colère, enfin du moins les personnels de cet EHPAD, établissement, je rappelle, d'hébergement de personnes âgées dépendantes, de l'hôpital, donc une grève et, écoutez bien, 32 revendications.
32
revendications. Je crois que c'est un record qui a été battu, là, il me semble, mais je n'ai pas fait un état de tout ça. Mais il me semble bien que c'est un record qui est battu, là. Donc, qui touche évidemment les conditions de travail, les effectifs, etc. Donc, en 2011, il y avait 10 agents qui avaient été négociés, qui étaient prévus par journée, considérant qu'il y avait 72 résidents et résidentes. La direction a bidouillé, en fait, sur l'effectif et sur les heures de travail, puisqu'elle avait décidé que ça serait 5 personnes le matin qui s'occuperaient de ces 72 résidents, 3 l'après-midi et 2 personnes pour la nuit. Qui plus est, des tâches qui reviennent normalement à des aides-soignants, des aides-soignantes, eh bien, sont assurées par les agents de service hospitaliers, c'est-à-dire c'est les gens qui font le ménage, qui transportent, qui poussent les résidents et les résidentes. Ce qui n'est pas évidemment leur travail, puisqu'ils ne sont pas payés pour ça, que leur salaire n'est pas en correspondance. Donc dialogue difficile, personnel qui a été assigné évidemment à leur poste. Et à ce jour, le nombre de résidents est de 176 quand même. Et que 97 agents, c'est le total de l'effectif des soins, enfin des agents de santé et administratifs. Voilà, selon les revendications donc, de la CGT. Dans cet EHPAD. À Bondy, dans le 93, sont les méfaits du regroupement hospitalier, on connaît, hein, avec l'hôpital Jean Verdier. Les services de proximité rejoindront donc l'hôpital Avicenne de Bobigny, du groupe Paris-Seine-Saint-Denis, 2 services transférés. Ensuite, la CGT craint l'hémorragie des services déplacés par la baguette magique de la fée Marisol. Je dis Marisol Touraine, et de Merlin l'enchanteur, c'est-à-dire Martin Hirsch. Au passage, la CGT signale la perte de lits. Enfin, je dirais, c'est même pas la
fermeture.
C'est pas la fermeture non plus, c'est le oui, c'est ça. Oui.
Enfin, le nombre de lits qui diminue, quoi, sur une prise en charge en tout cas.
Oui, voilà, qui disparaissent, quoi, des places qui disparaissent. Donc, et plus tard, c'est ça, la suppression évidemment de postes. Mm-hmm. C'est ce que craint donc la CGT. Ça coule de source aujourd'hui, selon Sud Santé d'ailleurs aussi, qui est dans le coup, avec la sainte économie accomplie, qui accomplit donc son œuvre. À Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, les Vénards, ils en ont 3, il y en a un qu'on n'en même pas dans leur truc. Depuis le 1er décembre, c'est une grève qui illumine donc les ateliers et magasins Gerflore. 700 personnes pour du revêtement de sol, hein, c'est ce qu'on fabrique chez Gerflore. Je croyais même que ça n'existait plus du tout, Gerflore. Bon, enfin bref, c'est là. Donc l'usine était bloquée au 6 décembre avec la CGT. Augmentation des salaires, donc pas gourmand, les Gerfloristes, je dirais, puisqu'il réclame que 1,5% et 1,5% symbolique pour contrer donc la direction qui leur propose, elle, 0,6%. Pour une entreprise qui fonctionne, qui marche, et je dirais presque sur du velours, sans jeu de mots, hein, sans plaisanterie évidemment, hein, vous connaissez. Donc les méthodes de management, elle n'en veut plus, parce que c'est terrible, hein, c'est carrément la Légion étrangère. À côté, en fait, que... Je disais que la Légion étrangère, c'était plutôt le Club Med. D'autres sites ont suivi à l'appel, Tarare par exemple, à Grillon dans le Vaucluse aussi. Donc même motif, même punition, partout chez Gerflor. À Amiens maintenant, ah voilà un truc qui revient à la surface, si vous me dites. Hein, si
non, t'inquiète pas, c'est bon, t'inquiète pas. Bon.
Amiens donc dans la zone industrielle sud. D'Amiens, c'est Dunlop, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire qu'il y avait eu avec Godière. Donc une grève emmenée par Sud Chimie qui a dû s'abriter des foudres, du moins qui s'est attiré les foudres de la CFTC, qui était un peu jalouse d'ailleurs, le syndicat là-dessus, qui accuse Sud de régler ses comptes. Alors pas bien pour la cohésion syndicale. Ça, c'était au mois de mai 2016. Pour ce qui est aujourd'hui, c'est une nouvelle énième réorganisation du temps de travail. Et ça rappelle des mauvais jours, des mauvais souvenirs. Rappelez-vous, donc, je disais, avec Goodyear, hein, qui était associé avec Dunlop. Et la suite qui avait posé tant de questions, et pourquoi eux, et pourquoi pas nous, puisque Goodyear, on sait que maintenant c'est complètement fermé, et bien Dunlop fonctionnait toujours, et fonctionne, c'est une boutique qui est passée de main en main, pas toujours propre d'ailleurs, c'est passé entre les mains de différentes sociétés, c'est ça que je veux dire. Ouais. Lutte, il y avait eu des luttes de clans également, il fallait concurrencer également Michelin sur son terrain, enfin bref, tout ça, ça fait des dégâts, surtout chez les travailleurs. Pour terminer, j'en ai encore une ici qui est le Teil, donc en Ardèche, c'est une suite, en fait, que l'on peut qualifier d'heureuse. Et prometteuse, peut-être, mais avec un point d'interrogation. On verra donc plus tard. Les salariés de la cartonnerie Girard ont obtenu des acquis substantiels, on peut dire, par rapport aux négociations qui étaient en cours. Je dirais même que ce sont des négociations qui étaient en carton-pâte, mises en place par la direction contre la grève illimitée de la mi-novembre, qui était de 80% hein, chez la centaine d'ouvriers, dont 7 de ces ouvriers étaient touchés par un licenciement économique, je dirais même un licenciement boursier, afin de combler un déficit complètement farfelu selon la CGT. Il s'agirait plutôt d'un coup d'essai de restriction, de suppression de postes afin d'éviter un PSE. On sait que un PSE, enfin du moins une suppression de postes au-delà, avant 10 postes, on peut le faire. Mmh. Enfin, du moins, les patrons peuvent le faire. Donc, un PSE, ça coûte très cher, évidemment, parce qu'il faut payer des indemnités, etc. Vous savez, la grève avait démarré donc, le 9 novembre. La reprise a débuté donc ce 28 novembre avec le traditionnel protocole. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de licenciement, finalement, puisque 5 reclassements ont été gagnés en interne, 2 départs volontaires et 3 autres employés qui étaient non concernés par ces licenciements ont pris leur clic et leur claque volontairement, avec une petite prime aussi substantielle, je pense, derrière. Il aura fallu donc plus de 2 semaines de gréver avec des blocages, manifs avec 500 personnes qui étaient venues du Teil exprès pour soutenir les travailleurs en grève. Ensuite, ce n'est pas forcément la direction qui est perdante dans l'histoire, finalement, puisque, souvenons-nous, son projet était de fermer une ligne de production, donc c'est fait, sans trop de bobos pour les ouvriers, certes, mais quand même, ça vaut le coup que la direction refasse un essai, quand même, on va recommencer une autre étape. Cette fermeture était prévue pour dégager plus de bénéfices, évidemment, et à terme, en recadrant, l'ambiance menée par le staff était aussi d'actualité, puisque c'était une ambiance pourrie, carrément, on peut dire pourrie, quoi. Donc là, je vais mettre encore un à suivre. Je pense qu'il y aura une suite.
Je suis désolé, notre stagiaire est parti comme ça. Et vous allez devoir faire la technique pour finir.
Allons bon.
Oui, je peux
l'emplacer.
Il va falloir bouger de place.
Je peux le remplacer. Hein.
Voilà, la lumière de frigo est déjà là.
Il est parti fâché.
Non, pas fâché, mais il est parti en tout cas. Ouais, je vous laisse du coup, je fais le petit résumé des rendez-vous de la semaine. Du coup, ce samedi, 15h30, rendez-vous Place Hétéro, donc pour une manifestation par rapport à tout ce qui se passe en Turquie depuis des mois et des mois. Voilà, faut être nombreux et nombreuses suite aux différents rassemblements qu'il y avait eu devant le consulat pour cette manifestation-là ce samedi. Donc voilà, 15h30, Place Hétéro. On vous rappelle aussi du coup les cours de langue pour les migrants et migrantes le lundi soir à 18h à la Plume Noire, au 8 rue Diderot. Les permanences dans le froid, voilà, tant qu'on n'aura pas de porte et pas de vitre. Voilà, ça se passe toujours les mercredis 17-19 et samedi 15h-19h. Et l'appel à solidarité financière est toujours d'actualité. Le pot commun ou un petit chèque à l'ordre de la Plume Noire à envoyer à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, dans le premier arrondissement. Et voilà, on vous souhaite une bonne soirée et une bonne écoute pour la suite avec la lumière du frigo.
Et voilà, et à mercredi donc.
À mercredi prochain.